peu moins d'une heure, mais en tout cas, j'essaierai de me tenir à une heure, comme discuté. J'ai l'article là avec moi. Alors, bonsoir tout le monde. Je suis très content d'être ici, déjà de revoir un très cher ami et collègue Ludovic. Donc, merci beaucoup au professeur Pullman et à toi, Ludovic, de m'avoir invité. Je suis aussi ravi d'être ici pour vous parler de l'environnement, qui est un peu une des matières sur lesquelles j'adore me pencher ou cogiter, hein, pour utiliser un petit concept cartésien. Et aussi, je suis content d'être ici parce que c'est le Centre Perelman. Et je suis, comme beaucoup de juristes, chercheurs, un fan de Chaim Perelman. Et je pense que le sujet du contentieux transnational est très bien choisi, parce que vous savez tous que Perelman a beaucoup travaillé sur les notions à contenu variable. Et alors, il est clair que lorsqu'on parle du contentieux transnational, il n'y a pas plus variable que cela. Et je vais essayer de vous montrer cet aspect dans le champ de l'environnement. Dans le champ de l'environnement, il est clair que la singularité est de règle. La nature des instruments est singulière. La responsabilité internationale, elle est singulière. Le règlement des différends dans le champ de l'environnement, c'est singulier. Donc, dès qu'on parle d'environnement, il y a toujours une spécificité, il y a toujours une singularité. Et je vais vous montrer aujourd'hui que dans le champ du contentieux transnational, on va peut-être retrouver des choses dont vous n'avez pas encore discuté ou des choses qui se distinguent d'autres domaines tels que le contentieux transnational des droits de l'homme. Avant d'entrer dans le vif de mon sujet, il faudrait quand même que je fasse un petit effort de définition, juste pour vous dire qu'est-ce que j'entends par contentieux transnational de l'environnement. Parce qu'effectivement, l'environnement, ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Il y a les composantes traditionnelles, l'eau, la flore, l'air, etc. Vous avez maintenant toutes les nouvelles composantes de l'environnement, le système climatique, la diversité biologique, etc. Donc, c'est la notion, le concept d'environnement est très large, très générique. Donc, pour moi, ici, contentieux transnational de l'environnement, c'est le contentieux transnational lié à la gestion des ressources naturelles. Très simplement. Comme ça, ça nous évite d'entrer dans des spécifications inutiles. Donc, contentieux lié à la gestion des ressources naturelles. Ce point de définition étant fait, j'aimerais maintenant entrer dans le vif de mon sujet. Tout d'abord, en vous annonçant la démarche que je vais adopter, cette démarche va être une sorte de démarche chronologique, pour ne pas dire historique. Donc, en fait, ce que je vais essayer de mettre en relief, de présenter ici, c'est les points saillants, les traits caractéristiques du contentieux transnational de l'environnement, mais dans une perspective d'évolution. Comment ce soi-disant contentieux transnational a évolué dans le temps. Alors, j'aurai trois étapes. La première étape temporelle ou historique va de la fin du 19e siècle à la fin des années 60. Ça, ce sera ma première étape. La deuxième étape, va des années 70 à la fin des années 80. Et ensuite, la troisième étape, début des années 90 à aujourd'hui. Donc, trois étapes pour décrire un peu ce phénomène du contentieux transnational de l'environnement. La première étape, l'idée que je vais mettre en exergue ici, c'est en fait l'absence de contentieux transnational en tant que tel. Mais par contre, la présence d'intérêts transnationaux dans le contentieux interétatique de l'environnement. Donc, on est à deux niveaux différents là. Dans la première étape, on n'appréhende pas, on ne saisit pas véritablement l'existence d'un contentieux transnational. Mais par contre, vous avez un contentieux interétatique qui parfois fait référence ou fait appel à des intérêts ou des considérations transnationales. Je m'explique. Première grande affaire, 1893, hein, je remonte très loin, mais première très grande affaire... Un locus classicus du droit de l'environnement, si je puis m'exprimer ainsi, l'affaire des phoques à fourrure de la mer de Bering. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu parler de cette affaire, très vieille affaire qui a opposé, donc 1893, un arbitrage entre les États-Unis et la Grande-Bretagne sur les phoques à fourrure de la mer de Béring. Alors, il y en a peut-être certains ici qui aiment la fourrure, mais bon. Sachez déjà qu'en 1893, à la fin du 19e siècle, les Américains avaient un problème quant aux navires de certaines puissances étrangères qui pratiquaient la chasse extensive des phoques à fourrure. Donc, brièvement, pour juste rappeler les faits de cette affaire, parce que je ne peux pas entrer dans les détails, il s'agissait de législation, de réglementation américaine qui avait été adoptée pour interdire la pêche, la chasse des phoques à fourrure, mais au-delà des eaux américaines. Donc, c'était une législation à portée extraterritoriale, okay, pour protéger une ressource naturelle qu'est le phoque à fourrure. Alors, bien entendu, les Américains, sur la base de l'application de cette réglementation, ont saisi certains navires britanniques qui, eux, ne respectaient pas l'interdiction de chasse. Mais ce qu'il est intéressant de noter, c'est que donc, les deux États ont décidé de soumettre leurs différends à ce niveau à un tribunal arbitral. Et le tribunal arbitral avait pour mandat, il avait pour mandat d'édicter des règles qui s'appliqueraient à tous les États, les Russes, la Grande-Bretagne, les États-Unis, qui pratiquent de temps à autre, selon les saisons, la chasse de phoques à fourrure. Et alors, comme je vous le disais, on a ici un contentieux interétatique entre deux États, les États-Unis et la Grande-Bretagne. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est qu'en 1893, déjà, le tribunal arbitral, donc dans les règles qu'il va établir concernant la chasse des phoques à fourrure, va prendre en compte ce que moi j'appelle un intérêt transnational, c'est-à-dire les besoins en subsistance des populations autochtones qui vivaient dans les eaux territoriales de la Grande-Bretagne, dans les eaux territoriales des États-Unis. Donc ça, c'est très intéressant parce que vous avez un différent purement interétatique, mais il y a une sorte de saut qualitatif qui est fait, qui consiste pour le tribunal à se dire, de manière incidente, il faudrait peut-être que dans les règles que je vais édicter, demander à ces États de ne pas priver ces populations autochtones de leur subsistance. Et les phoques à fourrure sont très importants pour la subsistance de ces populations autochtones. Donc, une petite règle a été insérée par le tribunal. Donc, premier exemple. Deuxième exemple, un autre locus classicus, cette fois en 1938. L'affaire de la fonderie de Trail. Alors ça, je suis sûr que vous en avez entendu parler. The Trail Smelter Case. Non? Ok. Alors ça c'est le... Il est encore plus locus classicus que celui que j'ai cité. 1938, cette fois, un arbitrage entre les États-Unis et le Canada. Donc les États-Unis sont toujours là. Vous voyez, on accuse souvent les Américains de ne pas avoir de sensibilité environnementale, mais c'est pas vraiment le cas, parce que si vous regardez l'histoire, ils étaient déjà là, à fond dans la protection de l'environnement. Mais bref, l'affaire de la fonderie de Trail, une petite fonderie dans l'état de la Colombie-Britannique au Canada, ok, et cette fonderie, bien sûr, émettait des gaz, hein, notamment du sulfure, et ce qui s'est passé, c'est que la fonderie de Trail était en fait la fonderie de Trail était établie à 25 km de la frontière américaine, donc de l'État de Washington. Et donc les fumées et autres à base de sulfure qui se dégageaient de la fonderie allaient sur le territoire américain. Et donc des fermiers, j'allais dire des paysans, mais des fermiers américains se sont plaints que leur bétail et les plantes ont subi des dommages à cause de cette émission, de ces émissions de fumée provenant de la fonderie canadienne. Problème de ressources naturelles. Quand on parle d'animaux, quand on parle de plantes, on est dans un problème de ressources naturelles. Alors, les Américains demandent bien sûr aux Canadiens de compenser les fermiers américains pour les pertes qu'ont subies leurs végétaux et leur bétail. Ce que les Canadiens refusent de faire, et donc
arbitrage.
Là encore, on est dans un contexte purement interétatique. Mais qu'est-ce qui va se passer? Pour la première fois dans l'histoire de la protection des ressources naturelles, vous avez un tribunal qui dégage une règle. C'est ce qu'on appelle la règle de l'utilisation non dommageable. La règle de l'utilisation non dommageable du territoire. Mais il ne l'utilise pas dans une perspective purement interétatique, parce que ce que le tribunal va dire, il va dire aux Canadiens, enfin aux deux États, vous n'êtes pas censé, vous êtes censé prévenir, vous êtes censé faire en sorte que les activités sur votre territoire ne causent pas de dommages aux biens et aux personnes sises sur le territoire d'un État voisin. Donc pourquoi ici je parle d'un intérêt transnational? C'est que pour la première fois, on prend en compte un problème transfrontière. Parce que finalement, ce qui se passe, c'est que les émissions de gaz à partir de la fonderie canadienne sur le territoire américain, c'est un problème transfrontière. Vous avez un déplacement des fumées de manière transfrontière. Alors, pour moi, cette idée du transfrontalier, du transfrontière, est une expression d'un intérêt transnational. Parce que finalement, le tribunal dit, bon, ben, à un État, les activités sur ton territoire, ok, vous avez le droit de faire tout ce que vous voulez, mais il faut éviter que ces activités portent préjudice aux biens, aux personnes, aux plantes, au bétail des citoyens ou des ressortissants de l'État voisin. Donc là, vous voyez qu'on n'est pas dans un contexte purement transnational, mais on prend quand même en compte ce qui se passe ailleurs, et on prend en compte l'idée des effets transfrontières de l'activité humaine. Est-ce que je me fais bien comprendre jusqu'à présent? Très bien. Troisième affaire, 1968. Donc 30 ans après la fonderie de Trail. Une autre affaire très intéressante, encore cette fois, entre les États-Unis et le Canada. L'affaire du barrage de Goethe. Alors, Goethe, c'est G-U-T. The Goethe Dam Case. Goethe Dam Case. Alors, l'affaire du barrage de Goethe. Très intéressante affaire, pourquoi? Là, c'est un problème de construction d'un barrage sur le fleuve Saint-Laurent. Vous connaissez tous le fleuve Saint-Laurent. Vous savez que c'est un fleuve qui est partagé entre les États-Unis et le Canada. Alors, le Canada voulait mettre en place un système de barrage qui allait entraîner, à certains niveaux du fleuve, une diversion des eaux, un détournement des eaux. OK ? Pour le faire, il faut avoir l'accord de notre État, en l'occurrence les États-Unis. Les Canadiens contactent les États-Unis, les États-Unis disent OK, mais alors, ce qui est très intéressant, et là encore je dis intérêt transnational dans un contentieux interétatique, vous allez voir pourquoi, les Américains, dans les négociations, envoient une sorte de lettre aux Canadiens pour leur dire OK, on accepte que vous construisiez, que vous mettiez en service votre système de barrage, mais, à une seule condition, si des ressortissants américains subissent des dommages du fait de la diversion des eaux, vous devrez les compenser. Et alors, comment on va déterminer la compensation? Soit par accord entre le Canada et les ressortissants américains, donc le gouvernement américain est hors jeu, hein, soit par accord entre le Canada et les parties qui ont subi le dommage, soit compensation déterminée par une cour américaine qui aurait été saisie par ses ressortissants américains. Alors là, je ne sais pas si vous voyez l'élément sur lequel je veux venir. Vous avez une condition qui est posée par un État qui est de dire à l'autre État, si mes ressortissants se plaignent, tu dois accepter d'être parti à un différend devant une cour américaine pour déterminer le montant de la compensation adéquat du fait des dommages que les ressortissants américains auraient subis. Alors, bien sûr, certains ressortissants américains se sont plaints de l'érosion et de certaines inondations qui ont été engendrées du fait de la diversion des eaux. Et donc, un citoyen américain en particulier qui s'appelle Oster, pas austère comme en français, mais Oster, O-S-T-E-R, a astreint le Canada devant une juridiction américaine. Et là, surprise, le Canada invoque son immunité de juridiction et d'exécution. Immunité. Ah non, mais moi je suis une nation souveraine, je ne peux pas être astreint comme ça devant une juridiction américaine pour discuter de preuves de compensation. Donc, et la Cour américaine a suivi, malgré le fait qu'il y a... Oui, malgré le fait que le consentement des Américains avait été donné sur la base de cette condition, la Cour américaine a suivi l'exception d'immunité qui a été soulevée par le Canada et a refusé de statuer sur l'affaire. Et c'est à cause de ça qu'on a dû avoir, que les Américains ont dû demander la constitution d'un tribunal arbitral dans cette affaire de Duke Dam Case pour régler la question de la compensation. Mais ce que je voulais mettre en lumière à travers ces trois affaires, c'est que vous voyez que pendant toute une période, presque un siècle, hein, parce que là j'ai commencé de 1893 à 1968, on n'a pas véritablement dans le champ de la gestion des ressources naturelles un véritable contentieux transnational. On a du pur contentieux interétatique, de l'arbitrage interétatique, mais qui, par certains aspects, prend en compte certains intérêts transnationaux. Et ça, c'est très intéressant. Pourquoi ? Je vais conclure sur cette première étape. C'est très intéressant parce que cela nous montre, en tout cas dans le champ de l'environnement, que pour qu'il y ait du contentieux transnational, il faut des règles du jeu. Vous ne pouvez pas avoir de contentieux transnational s'il n'y a pas un minimum de prévisibilité juridique. Or, le problème de la protection de l'environnement dans cette première période dont je vous parle, c'est que c'était un peu la tabula rasa. Hein. Il y avait presque pas de règles à cette époque de protection de l'environnement. Donc, c'était très difficile pour des ressortissants d'un État ou d'un autre État de pouvoir aller devant une autre cour et revendiquer des violations de droits ou d'obligations, etc. Donc c'est ça qui fait que le contentieux transnational de l'environnement dans un premier temps est quasiment inexistant, c'est que le droit de l'environnement, le droit international de l'environnement était aussi inexistant à cette période-là. Il y avait quelques règles par-ci par-là, mais très très faibles, quasiment inexistantes. Par contre, les choses vont changer dans ma deuxième étape. Deuxième étape, comme je vous avais annoncé, deuxième période, des années 70, du début des années 70 à la fin des années 80. Donc là, il y a un tournant. Je n'ose pas utiliser le concept de rupture épistémologique parce que je ne pense pas que ça s'applique. Mais disons qu'il y a un turning point. OK ? C'est peut-être plus sexy, je trouve. Il y a un turning point. Pourquoi ? Parce que depuis les années 70, il y a une nouvelle prise de conscience à l'échelle internationale. Il y a une prise de conscience quant à la nécessité de protéger l'environnement, quant à la nécessité de protéger les ressources naturelles. Quand je parle de l'échelle internationale, je parle de l'échelle onusienne, l'ONU. Parce que pour ceux d'entre vous qui connaissent la charte de l'ONU, vous verrez qu'il n'y a aucune mention à l'environnement dans la charte. Donc en 1945, quand on établissait le système, l'environnement, ce n'était pas quelque chose qui était encore une préoccupation. Mais alors, début des années 70, il y a une grande conférence qui est convoquée, qui s'appelle la conférence de Stockholm, sur l'environnement humain, la conférence des Nations Unies sur l'environnement humain. C'est la première grande conférence internationale jamais organisée et dédiée à la protection de l'environnement. Et à Stockholm, on adopte une déclaration très importante. Ça s'appelle la déclaration de Stockholm. Et dans cette déclaration, vous avez un principe, mais fondamental, qui s'appelle le principe 21, la déclaration de Stockholm, malheureusement je ne vais pas ici, mais vous pourrez la lire, mais je peux vous dire ce qu'il y a dedans. Le principe 21 de la déclaration de Stockholm dit que les États ont l'obligation, les États ont l'obligation de faire en sorte que les activités sur leur territoire ou les activités sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l'environnement d'autres États, ni à des zones ne relevant d'aucune juridiction nationale. Est-ce que vous voulez que je répète ça? Principe 21 de la déclaration de Stockholm. Les États ont l'obligation de faire en sorte que les activités sur leur territoire ou les activités exercées qui sont conduites sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l'environnement d'autres États ou à des zones ne relevant d'aucune juridiction internationale, comme l'Antarctique, par exemple. OK ? Ça, c'est le principe 21. Pourquoi le principe 21 est important ? C'est parce que pour la première fois à l'échelle internationale, vous avez une juridicisation, c'est-à-dire une règle, une vraie règle, qui pose comme prémisse ou comme principe que l'environnement, la protection de l'environnement, est un intérêt essentiel des États. Un intérêt essentiel des États, mais aussi une obligation pour que les États doivent mettre en œuvre pour le bien de leur population. C'est ça qui se dégage du principe 21. Et alors ça va avoir un impact, un effet sur le contentieux transnational. Parce que ce qu'on va voir, c'est que dans ma deuxième période, il y a une émergence d'un contentieux transnational de l'environnement grâce à cette nouvelle prise de conscience juridique, selon laquelle l'environnement est un intérêt essentiel des États et que les États ont des obligations de protéger leur environnement, l'environnement des autres États et même l'environnement de zones ne relevant d'aucune juridiction nationale. Mais alors, dans ce contentieux transnational dont je vous parle, vous avez deux approches. Vous avez l'approche française et l'approche allemande. Je les ai choisies parce que, à mon avis, dans les années 80, c'est les deux approches majeures pour le contentieux transnational de l'environnement. L'approche française, vous avez peut-être entendu parler de la fameuse guerre du sel entre la France et les Pays-Bas. La pollution du Rhin. Vous avez entendu parler de ces affaires ? La pollution du Rhin du fait des décharges provenant des mines domaniales de potasse d'Alsace. Il n'y a aucun Alsacien ici ? Ok, bon. C'est vrai qu'on est en Belgique. C'est vrai qu'on est en France. C'est de la provocation. Bon, alors, cette affaire de la guerre des sels, on l'appelle la guerre du sel, parce que pendant plus de 20 ans, jusqu'à très récemment, en 2007, il y a eu un arbitrage encore entre les Pays-Bas et la France à ce sujet. Pendant plus de 20 ans, les Pays-Bas et la France ont eu toute une série de procédures contentieuses du fait des décharges de chlorure de sodium provenant de cette usine de potasse alsacienne qui se déversait dans le Rhin. Et donc, ça ne faisait pas plaisir aux ressortissants hollandais qui avaient peur pour leur santé, etc., la qualité de l'eau, la préservation de l'environnement aquatique. On est donc dans des problèmes environnementaux. OK ? Donc, en 83, vous avez une saisine, la saisine d'un tribunal administratif, du tribunal administratif de Strasbourg, par des ressortissants hollandais pour justement se plaindre des décharges en chlorure de sodium au niveau de la partie hollandaise du Rhin. Et alors, il se posait un problème de standing, de locus standing, un problème d'accès. Pour des citoyens hollandais, est-ce qu'un citoyen hollandais peut aller devant une juridiction française et demander qu'un tribunal administratif reconnaisse qu'il y a eu un excès de pouvoir des autorités françaises de permettre des décharges supplémentaires de chlorure de sodium dans le rein, etc. Vous connaissez tous le droit administratif, je ne vais pas vous expliquer c'est quoi le recours en excès de pouvoir. Mais, pour nous, c'est intéressant parce qu'il se pose un problème d'accès. J'appellerais ça en latin le locus standi. Okay? Il se pose un problème de locus standi. Et le tribunal administratif de Strasbourg va lui adopter une attitude passive. Il va leur dire, oui, vous pouvez avoir accès, vous pouvez venir devant les juridictions françaises pour demander réparation ou cessation ou annulation des actes administratifs qui autorisent de telles décharges, parce que le droit international et le droit français ne disent rien là-dessus. J'appelle ça l'attitude passive, parce que le tribunal dit, puisque le droit international et le droit français ne disent rien sur la possibilité pour les citoyens hollandais d'avoir accès aux juridictions françaises pour ce genre de problèmes environnementaux, ok, bon, ben le silence implique en fait une sorte d'acceptation. Donc vous pouvez avoir accès. Il accepte donc les réclamations des citoyens hollandais. Mais ça, c'est l'approche française. Alors à côté, vous avez l'approche allemande, qui elle est beaucoup plus proactive. Elle est beaucoup plus proactive. Donc, 3 ans après cette affaire-là, des mines domaniales. De potasse d'Alsace. 3 ans après, en Allemagne, vous avez une autre affaire qui, elle, ça s'appelle l'affaire de l'usine d'énergie nucléaire de Lingen. Lingen, c'est une petite bourgade proche de la frontière entre l'Allemagne et les Pays-Bas. Donc, tout à l'heure, je parlais que des Américains et des Canadiens, maintenant, vous voyez qu'on parle plus des Hollandais, des Français, des Allemands, donc on est plus dans un contexte européen. Donc l'affaire 86, l'affaire de l'usine d'énergie nucléaire de Lingen. Brièvement les faits, les autorités allemandes avaient autorisé la mise en place d'une usine d'énergie nucléaire à 15 ou 20 km de la frontière avec les Pays-Bas. Alors vous avez bien sûr certains ressortissants hollandais qui n'étaient pas très contents de cette mesure, et donc qui ont décidé, non pas de demander à leur gouvernement de négocier avec les Allemands pour voir s'il y avait un autre emplacement possible pour l'usine, non, qui ont décidé directement de saisir les juridictions allemandes pour se plaindre de la mise en place, de l'autorisation d'installation de cette usine d'énergie nucléaire, considérant que la mise en service de l'usine en question entraînerait des dommages sur la santé, mais aussi des dommages sur l'environnement. L'environnement de ces gens qui vivent du côté hollandais de la frontière. Alors là, vous avez un problème d'accès, encore qui se pose, de locus standi. Les juridictions hollandaises se disent, la Cour fédérale administrative de Berlin, donc la Cour fédérale administrative de Berlin, qui, dans son jugement, se pose la question préliminaire de savoir est-ce qu'on peut donner accès à notre juridiction à un citoyen ou à des citoyens hollandais qui se plaignent de la mise en place, de l'autorisation de la mise en place d'une usine d'énergie nucléaire. Alors pourquoi je dis que la Cour allemande va avoir une approche proactive? La Cour allemande, contrairement aux Français, au tribunal administratif de Strasbourg, qui avait dit « le droit international ne dit rien, le droit français ne dit rien, j'accepte », la Cour administrative allemande, elle, va dire « mais le droit international dit quelque chose ». Principe 21 de la déclaration de Stockholm. Qui dit quoi? Quelqu'un se rappelle? Dans mon principe 21. Qu'est-ce qu'il dit le principe 21?
Que les États ne peuvent pas.
Ont l'obligation de
ne pas autoriser des activités qui ont des effets dommageables sur le territoire des autres États.
Très bien, merci. Alors la Cour fédérale administrative de Berlin, elle dit, mais écoutez, il y a le principe 21 de la déclaration de Rio qui pose désormais cette obligation internationale. Et le fait de donner un standing, de donner un accès aux citoyens hollandais en fait, bah, c'est un moyen de mettre en œuvre. C'est un moyen de mettre en œuvre le principe 21 de la déclaration de Stockholm. Si vous permettez à des ressortissants étrangers d'avoir accès à des juridictions étrangères, ça c'est le moyen parfait de mettre en œuvre l'obligation contenue dans le principe 21, parce que là l'État pourra vraiment être sûr qu'il n'est pas en train de causer de dommages à l'environnement, à la santé des personnes, des biens, si sur le territoire de notre État. Donc on utilise l'accès à la juridiction étrangère comme une sorte de mise en œuvre procédurale de l'obligation substantielle qui est dans le principe 21 de la déclaration de Stockholm. Donc, ça, c'est ce que moi j'appellerais les prolégomènes du contentieux transnational de l'environnement. Mais là, on est dans ma deuxième période, hein, on est entre 70 et fin des années 80. Mais pour moi, ici, le contentieux transnational, l'espace du contentieux est transnational. L'espace, il l'est. Mais le contenu ne l'est pas. Pourquoi? Je vais vous dire. L'espace est transnational parce qu'effectivement, on permet à des citoyens étrangers d'aller dans d'autres juridictions. OK? Donc, l'espace du contentieux, le fort, pour reprendre l'expression dans votre article, le fort est transnational. Mais par contre, le contenu du contentieux, il ne l'est pas. Pourquoi? Parce que vous remarquez que c'est quand même des problèmes d'environnement de proximité. On n'est pas... Pour moi, transnational est synonyme de global. Lorsqu'on parle de questions transnationales au sens propre du terme, on est dans une logique du global. Je vais venir là-dessus quand je vais attaquer ma troisième partie. Mais ici, dans les exemples que je vous donne, là, des mines domaniales de potasse d'Alsace, de cette usine d'énergie nucléaire à Lingen, vous voyez quand même que c'est des problèmes d'environnement de proximité, on a peur pour sa santé, on n'est pas vraiment là pour protéger l'environnement, mais c'est plus une dynamique anthropocentrique ou utilitariste. J'ai peur pour ma santé, allez, je vais vite saisir les tribunaux. Donc l'espace est transnational, l'espace est contentieux, mais le contenu ne l'est pas. Les choses changent dans ma troisième période. Troisième étape, troisième période. Année 90, fin des années 80, si vous voulez, à aujourd'hui. Là, je peux vraiment dire qu'il y a une rupture épistémologique. Parce qu'il y a un nouveau concept qui apparaît sur la scène internationale, c'est le concept de développement durable. Vous avez tous entendu parler de ça. Développement durable. On ne parle plus de protection de l'environnement, tout court, mais on parle de l'objectif de développement durable. Vous avez une grande conférence qui est organisée en 1992, la conférence de Rio sur l'environnement et le développement. Donc ça, c'est la deuxième grande conférence des Nations Unies dédiée à l'environnement. La conférence de Rio sur l'environnement et le développement, 1992. Là aussi, on adopte une belle déclaration. La déclaration de Rio sur l'environnement et le développement. Et là, vous avez trois aspects majeurs, trois nouvelles tendances. Tout d'abord, le global. Pour la première fois, on va envisager, on va concevoir la protection de l'environnement en termes globaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne considère plus que les problèmes environnementaux sont des problèmes de chaque État, vus comme des entités distinctes. Non, distinctes. On considère que les problèmes environnementaux sont des problèmes globaux. Donc, la mauvaise protection de l'environnement aux États-Unis peut avoir des effets en Afrique, peut avoir des effets en Chine. Ce qu'ils font en Chine, ça peut avoir des effets en Arctique, etc. Donc, on raisonne en termes d'écosystème. On ne raisonne plus en termes de ressources l'une à côté de l'autre, mais on raisonne en termes d'écosystème, en termes globaux. Et c'est ça qu'on n'avait pas avant. C'est pour ça que je disais le contenu de mon contentieux transnational avant, n'était pas si transnational que ça, parce que c'était de l'environnement de proximité. Là, à la fin des années 80, début des années 90, le global, on parle de système climatique, par exemple. On parle de diversité biologique. On ne parle plus des espèces menacées d'extinction, des espèces migratrices, non, etc. Non, on parle de diversité biologique, le tout. On parle du système climatique. OK? Ça, c'est la première nouvelle tendance. La seconde, les générations futures, l'équité intergénérationnelle. Nouveau principe, le principe de l'équité intergénérationnelle. Ça, c'est nouveau aussi. Pourquoi c'est nouveau? On nous dit, il ne faut pas protéger l'environnement que pour les générations présentes, mais il faut aussi les protéger l'environnement pour les générations futures. Alors, les générations futures, je suis désolé, concrètement, c'est quand même très diffus. Les générations futures, elles ne sont pas encore là. Donc, là, ça veut dire que rationner Personae, on ouvre le spectre des personnes qui sont bénéficiaires ou qui sont censées être bénéficiaires de la protection de l'environnement. Puisqu'on ne parle pas des générations présentes, nous qui sommes là, mais des générations futures. Par exemple, notre attitude vis-à-vis de l'environnement ici en Belgique, aujourd'hui, ne doit pas juste prendre en compte nos besoins à nous, mais aussi le besoin des générations futures, mais pas des générations futures belges. De toutes les générations futures. Et vous allez voir pourquoi tout ça, ça va changer la nature du compensé. Troisième chose, troisième nouvelle tendance, du début des années 90, la démocratie environnementale. La démocratie environnementale. Alors, vous avez un fameux principe dans la déclaration de Rio qui s'appelle le principe 10. Le principe 10 de la déclaration de Rio qui nous dit qu'en matière environnementale, il faut, un, de la participation du public au processus décisionnel. Ça, c'est un. Deux, il faut de l'accès à l'information. C'est tous le droit à l'information. Il faut de l'accès à l'information. Les gens doivent savoir quels sont les impacts ou quels pourraient être les impacts environnementaux et écologiques des projets. Ça, c'est la deuxième chose que nous dit le principe 10. Et enfin, la troisième chose que nous dit le principe 10 et qui nous intéresse ici en particulier, il faut un accès effectif à la justice. Du public. Pas des États. L'accès effectif à la justice pour tout ce qui est question environnementale. OK ? Donc, vous voyez que là, on a quand même des ingrédients, si je peux utiliser ce terme, des ingrédients juridiques ou procéduraux politiques qui vont favoriser véritablement un vrai contentieux transnational. Parce que si, par exemple, vous dites aux États... Il faut garantir l'accès à la justice de tous, de tout un chacun pour tout ce qui concerne les questions environnementales. Ça peut favoriser du contentieux transnational. Si vous dites aussi, on est tous tenus de faire en sorte que les générations futures aient une planète propre, saine, écologique, soutenable, etc. Ça veut dire aussi que on peut se retrouver devant des forts étrangers pour dire ben, on est là pour protéger les générations futures. On fait cette action parce que les générations futures ont tel droit, etc. Quand vous parlez de global, si vous dites que les choses sont globales, et je vais vous donner des exemples, si vous considérez par exemple que la préservation du système climatique est une question globale, vous en tant que Belge, vous devriez pouvoir aller devant une juridiction et dire mais les Américains et les Chinois, ils sont en train de polluer à outrance, ils ne respectent pas les traités internationaux de lutte contre les changements climatiques, et ça va porter préjudice au reste du monde parce que la détérioration du système climatique, elle n'a pas de frontières. les conséquences, elles se font ressentir partout, quelles que soient les sources et quelle que soit l'origine de l'émission des gaz à effet de serre. Donc vous voyez que déjà, les concepts que je vous annonce là peuvent légitimer un contentieux transnational de l'environnement. Alors je vais vous donner maintenant des affaires. Une affaire très intéressante d'abord, pour vous montrer jusqu'où ça va. En 93, c'est une affaire au Costa Rica, une affaire jugée par la Cour suprême du Costa Rica, en 1993. C'est l'affaire Chacon, moi j'arrive jamais à retenir les noms espagnols, mais ça devrait aller. Chacon, voilà, comme ça. L'affaire Chacon contre le ministre de la Santé, jugé par la Cour suprême du Costa Rica en 93. Cette affaire est très intéressante parce que là aussi, là, bon, on est purement dans un contentieux national. Hein, parce que Chacon, c'est un Costaricain qui va saisir une juridiction costaricaine, donc on est au niveau national contre un ministre de la Santé. Mais pourquoi je choisis cette affaire? C'est pour vous montrer que dans la troisième étape, en réalité, ce n'est pas vraiment le contentieux transnational en tant que tel qui va se développer, mais c'est la formulation de principes transnationaux de protection de l'environnement. Je répète. Les affaires que je vais vous présenter maintenant dans ma troisième période, ce n'est pas vraiment des affaires qui vont... Ce n'est pas vraiment des affaires qui vont mettre en exergue ou en relief le développement d'un contentieux transnational proprement dit. Non. En fait, là, on va vraiment avoir affaire à des contentieux nationaux, mais qui vont servir de socle ou de piédestal à la formulation de principes transnationaux. Je ne parle pas de principes internationaux, mais de principes nationaux. De principes transnationaux de protection de l'environnement. J'y arrive. Cette affaire du Costa Rica. Chacon se plaint que le ministère de la Santé a autorisé la mise en place d'une usine de traitement de déchets dans son village, etc. Et que ça, c'est dangereux pour leur environnement, c'est dangereux pour leur santé. Et alors, la Cour suprême du Costa Rica, elle fait un obiter dictum, mais très intéressant. Vous savez tout ce que c'est, tout c'est quoi l'obiter dictum, hein? Elle fait un obiter dictum très intéressant. Elle nous dit, écoutez, aujourd'hui, la protection, on est en 93, donc un an après Rio. La protection de l'environnement aujourd'hui est un droit fondamental de l'homme. Et en tant que droit fondamental de l'homme, il implique un droit à la réaction. Je suis en train de vous dire ce que la Cour a dit, hein. En français, mais je l'ai lu en anglais, mais je vous le dis en français. Le droit, la protection de l'environnement, ok, est un droit fondamental de l'homme. Et en tant que droit fondamental de l'homme, il implique un droit à la réaction chaque fois et partout où il pourrait, où il est violé. Et la Cour nous dit, la Cour suprême du Costa Rica nous dit, l'environnement, c'est un intérêt diffus de tous les peuples. C'est un intérêt diffus de tous les peuples. Là, la Cour est en train de est en train de traiter de la question du standing, hein, du locus standing, de l'accès. Et elle nous dit, la protection de l'environnement, c'est un intérêt diffus, a diffuse interest of all people. Un intérêt diffus de tous les peuples, c'est un droit fondamental qui implique un droit à la réaction chaque fois et partout où il pourrait être violé. Ça veut dire, en fait, que, en tant que droit fondamental, le droit à l'environnement, le droit à la protection de l'environnement peut ouvrir les portes d'un contentieux transnational. Puisque finalement, c'est l'intérêt diffus de tous les peuples. Ce qui se passe au Costa Rica, c'est un intérêt pour nous. Ce qui se passe au Sénégal, ce qui se passe aux États-Unis. La sauvegarde de l'environnement est un intérêt diffus. La notion de diffus, de tous les peuples, c'est diffus. C'est pas spatialement. C'est pas spatialement. Comment on dirait ça? Ok? Donc ça, c'est, pour moi, c'est une affaire vraiment fondamentale de la nouvelle, qui démontre le nouvel esprit. Mais comme je vous dis, ce n'est pas pour autant que vous avez ces principes que je vous ai présentés que le contentieux transnational en tant que tel qu'il est présenté par mes deux chers collègues dans leur magnifique article, ce n'est pas parce que vous avez tous ces principes que le contentieux transnational de l'environnement se développe pour autant. Non, en fait, ce que vous avez, c'est un développement du contentieux national, mais par le biais duquel les juges nationaux vont formuler des principes transnationaux. C'est autre chose. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous disais que l'espace était transnational, mais le contenu ne l'était pas vraiment. Là, on change de logique. L'espace va être plutôt national, mais le contenu du contentieux, lui, va être transnational. Vous me suivez? Ou c'est une gymnastique Non, parce que vous me dites, moi je répète. Hein. Ça va? Comme ça, on a tous les mêmes points de vue sur la discussion. Ok, donc, principes transnationaux. Je vais vous donner des exemples. En 92, vous avez une affaire très intéressante devant la Cour suprême de Colombie. Cour suprême de Colombie. C'est l'affaire Funde Publico. Funde Publico contre le maire de Bala. Je suis pas très sûr des noms des affaires, mais bon. Des noms des affaires, des noms de Bala Grande, des noms espagnols. Bala Grande, devant la Cour suprême de Colombie. Okay? Ici, c'était un problème de production d'asphalte. Donc, l'asphalte, c'est pas bien pour la santé, c'est pas bien pour l'environnement. Mais ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que dans la constitution colombienne, vous avez inscrit quelque part une disposition qui dit que les citoyens colombiens, ont un droit à un environnement sain. Donc un droit de l'homme. Un droit à un environnement sain. On en avait jamais entendu parler de ça avant, hein, dans notre période. Là, ok, cette ONG, là, Funde Publico, considère que la décision du maire de Bala Grande viole le droit à un environnement sain parce que ça a autorisé les usines qui allaient utiliser de l'asphalte, etc. Bon, la production d'asphalte. Ce qui est intéressant, c'est que la Cour va faire toute une analyse où elle va nous dire, mais c'est vrai que le droit à un environnement sain, On est en 92, peut-être qu'aujourd'hui les droits de l'homme considèrent que ça existe, le droit à un environnement sain, mais en 92 c'était très controversé. Ok? Donc la Cour, elle fait une sorte d'analyse, elle regarde les traités, elle regarde un peu la pratique internationale, elle dit c'est vrai qu'au niveau international il n'y a pas vraiment de consensus sur l'existence d'un droit à un environnement sain. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle balaye l'international. Et elle se dit, mais ce que je constate, c'est que un tiers des constitutions nationales à l'heure actuelle, donc en 92, incorporent ou font mention d'un droit à un environnement sain. Un tiers des constitutions nationales. Donc la Cour suprême colombienne ne regarde pas que la constitution colombienne pour décider, elle ne regarde pas le droit international, puisque le droit international n'est pas très clair, elle préfère le mettre de côté. Mais elle va rechercher ce que moi j'appelle une sorte d'ordre public transnational ou une sorte de transnational public policy pour déterminer s'il y a un droit à un environnement sain qui est reconnaissable ou qui est constatable. Elle dit un tiers des constitutions nationales de ce monde prennent en compte le droit à un environnement sain. Ça, pour moi, c'est la formulation de principes transnationaux. Un autre exemple, encore plus révélateur de la formulation de principes transnationaux dans le cadre de contentieux purement nationaux, là, c'est une autre affaire qui a été jugée par la Cour suprême d'Inde. Et après, il me reste 10 minutes, je pourrais conclure. C'est ça. C'était une heure. On a commencé à 8h15. À 6h15. Ah ben non, moi je suis...
Il reste 9 minutes.
C'est une heure.
Il reste 9 minutes.
9 minutes, voilà. Ah ben oui. C'est la méthode française, c'est moi jusqu'au bout de la dernière seconde. Bon. Vous avez donc cette affaire jugée par la Cour suprême de l'Inde qui s'appelle... Vellore Citizen contre Union Indienne, Vellore, c'est une association. Vellore Citizen contre Union de l'Inde. Alors, là aussi, il se posait des problèmes de droit des générations futures, développement durable, obligation pour un État de protéger l'environnement, etc. La Cour suprême de l'Inde, elle regarde à peine le droit international. Elle regarde à peine le droit indien parce qu'il n'était pas très élaboré. Ça, c'est une affaire de 96, celle dont je vous parle, en matière environnementale. La Cour suprême va se référer à un document qui s'appelle le Caring for Earth Strategy. Caring for Earth Strategy. C'est un document de 91 qui a été élaboré et adopté par deux ONG, et un organe subsidiaire de l'ONU. Alors, des ONG, le WWF, que vous connaissez tous, et l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Donc, deux ONG qui ont élaboré un document, donc ce n'est pas un document juridique, ce n'est pas un traité, c'est vraiment un document qui dit, bon, ben voilà ce qu'il faudrait faire aujourd'hui en termes de protection de l'environnement, en termes de prise en compte des droits des générations futures, etc. Document élaboré avec le soutien du PNUE, donc le PNUE c'est le programme des Nations Unies pour l'environnement, c'est un organe subsidiaire de l'Assemblée Générale des Nations Unies, et la Cour suprême de l'Inde va se fonder sur cette sorte de document. Pour moi c'est un document transnational finalement, puisque c'est deux ONG et un programme international qui ont élaboré, va se fonder sur ça pour dégager les obligations en matière de protection de l'environnement qui pèsent sur l'État indien. Donc ça, c'est la troisième période, c'est ce que je voulais vous montrer, c'est vraiment ce déplacement vers la formulation de principes transnationaux dans du contentieux national. Et alors, en conclusion, et je m'arrêterai là, après on pourra revenir dans la discussion, ce que j'aimerais juste dire pour l'instant, c'est que lorsqu'on parle du contentieux transnational de l'environnement, on ne peut pas avoir une approche structuraliste. On ne peut pas vraiment se dire le contentieux est transnational parce que c'est des juridictions étrangères ou des forts étrangers ou une multitude de juridictions qui connaissent du différent. Non, il faut avoir une approche fonctionnaliste. C'est-à-dire qu'il faut aller regarder la fonction en tant que tel du contentieux, pour dire si c'est transnational ou pas. Si vous constatez qu'en fait, le juge, ce qu'il fait, c'est de consolider ou de fermenter une sorte d'ordre public transnational de l'environnement ou des principes transnationaux de l'environnement, vous pouvez dire que vous êtes dans un contexte de contentieux transnational, même si le différent n'a lieu que dans un fort purement national. Ok ? Donc, je prône, et ce sera le mot de la fin, pour la discussion, une approche fonctionnaliste plutôt qu'une approche structuraliste dans le cadre du contentieux transnational de l'environnement. Je me soumets maintenant à vos commentaires et questions. Merci.
Sans attendre, je vais céder la parole à...